VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 15 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Alberson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, sortie du nonce apostolique contre, je cite, un État prédateur de son peuple.
Au Mali, deux morts hier dans une attaque au marché de Menaka.
En Guinée, décès hier d'un adolescent blessé mercredi dans les manifestations violentes de Boké, portant à deux le nombre de morts.
Au Niger, au moins 50 personnes ont été tuées dans les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays.
Nouvelle réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau tir de missile nord-coréen.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le nonce apostolique a dénoncé un État prédateur de son peuple dans un entretien reproduit jeudi par plusieurs médias congolais. Il y confirme que le pape ne se rendra pas à Kinshasa avant la tenue d'élections pour éviter tout risque de manipulation. Le pape François est attristé par une certaine distance que l'on perçoit entre la classe politique et son peuple, a déclaré Mgr Luis Mariano Montemayor à la radio onusienne Okapi, de retour d'une visite de 5 jours dans la région troublée du Kassai.
Au Mali, attaque hier au marché de Menaka, il a fait 2 morts, un civil et un militaire. Les assaillants ont ensuite pris la route menant à la frontière entre le Mali et le Niger, sans être inquiétés par les forces sur place. De Bamako, précision de notre correspondant Kassim Traoré.
À Menaka, les jeudis sont les jours de foire hebdomadaire dans cette ville située entre les dunes de sable. C'est en fin d'après-midi que des assaillants ont profité de la période où certains commerçants étaient en train de faire leurs bagages pour attaquer un véhicule de l'armée malienne. Sur le champ, les assaillants ont tué le chauffeur. Dans leur fuite, ils ont heurté un passager dans le marché. Ce dernier est décédé quelques minutes après. Bien vrai que la ville de Menaka est remplie de groupes armés comme les MS, la SEMA et d'autres groupes d'autodéfense. Aucune n'a poursuivi ces hommes, qui pourtant ont semé la peur dans les marchés et alentours. Vers le crépuscule, le calme était revenu à Menaka et la nuit a été paisible pour la population. Cette attaque se déroule le même jour que les chefs d'état-major du G5 Sahel tenaient leur réunion à Sévaré. Cela afin de convenir du déploiement de leurs hommes sur le terrain. Par ailleurs, Amadou Ndjoum, un agent de l'État enlevé le 7 avril à Walodo, par des bandits armés, a été libéré ce jeudi 14 septembre 2017. Au moment de son arrestation, il partait pour payer des agents de l'INPS dans la zone de Massina. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, un adolescent de 17 ans blessé dans les violentes manifestations de mercredi dans la ville minière de Boké est mort jeudi à l'hôpital, portant à 2 le nombre de personnes tuées, ont annoncé sa famille et une source hospitalière. Un homme de 25 ans était mort mercredi après avoir été blessé d'une balle à la tête. Boké, à quelques 300 km au nord-ouest de la capitale, Conakry, a été le théâtre mardi et mercredi de manifestations organisées pour protester contre le manque d'eau potable et réclamer le rétablissement de l'électricité absente en raison d'une panne survenue dans la nuit du 4 au 5 septembre.
Au Sénégal, des députés de l'opposition ont protesté jeudi pendant l'installation de la nouvelle Assemblée nationale contre le maintien en détention du maire de Dakar, Khalifa Sall, empêché de siéger malgré son élection aux législatives du 30 juillet. En prison depuis le 7 mars, il n'a pas pu se rendre à la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée malgré son immunité parlementaire, a dénoncé à la tribune de l'hémicycle un député de sa coalition, Cher Bamba Dieye. Opposant au président Macky Sall, dont il devrait être l'un des concurrents à la présidentielle de 2019, Khalifa Sall est accusé de détournement de fonds publics.
Au moins 50 personnes sont mortes au Niger après des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays désertique, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par l'ONU. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la capitale, avec 21 morts et 10 blessés, à Maradi, 9 morts et 26 blessés, et à Tillabéri et à Zinder, 8 morts chacune. À Agadez, aux portes du désert, on dénombre 19 726 sinistrés.
Un policier a été tué et 32 partisans de l'indépendance du Biafra ont été arrêtés à la suite de violentes manifestations dans l'état de Rivers, dans le sud du Nigeria, a annoncé jeudi la police. Elle impute le meurtre du policier à des membres présumés de l'IPOB, c'est un mouvement indépendantiste du Biafra, une région en grande partie Igbo. L'IPOB a affirmé que 5 de ses partisans avaient été tués dans les heurts, ce que l'armée a démenti. Le gouvernement de l'état voisin d'Abia a imposé mardi un couvre-feu nocturne de 3 jours après la montée des tensions ces derniers jours.
5 personnes sont décédées de la peste pulmonaire à Madagascar. On a détecté 22 cas suspects de peste pulmonaire, dont 5 décès confirmés dus à la peste, a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet du ministère de la Santé. Les autorités affirment toutefois que la situation est sous contrôle, malgré la panique qui s'est emparée de la grande île. La peste réapparaît presque chaque année à Madagascar depuis 1980.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a tiré un autre missile au-dessus du Japon aujourd'hui, quelques jours seulement après la prise de nouvelles sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU, à la suite du 6e test nucléaire de Pyongyang. Le gouvernement japonais a, dans sa réaction, souligné que Tokyo ne peut absolument pas accepter ces provocations successives de la Corée du Nord et a exprimé de la manière la plus énergique possible sa colère. Selon la Corée du Sud, le missile a probablement atteint une altitude de 770 km et parcouru 3700 km, une distance suffisante pour atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Le président sud-coréen Moon Jae a convoqué son Conseil de sécurité nationale pour suivre la situation et parer à toute nouvelle menace sécuritaire nord-coréenne. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui à la demande des États-Unis et du Japon, selon des diplomates à New York.
Le président Donald Trump s'est rendu hier en Floride pour constater les dévastations de l'ouragan Irma qui a fait 20 morts dans cet État. Accompagné de son épouse Melania et du vice-président Mike Pence, il a notamment visité Fort Myers sur la côte ouest de la Floride, zone la plus touchée par la tempête. Des détails avec Eric Manirakiza.
Donald Trump a parcouru quelques rues de la ville et rencontré les habitants. Il s'est plié à des séances de selfies en participant avec des volontaires à la distribution de vivres, sandwichs, fruits et de l'eau minérale aux sinistrés. M. Trump a aussi survolé en hélicoptère les terres inondées et les maisons dont les toits se sont envolés jusqu'à Naples, une station balnéaire conçue sérieusement endommagée. 4 jours après le passage de la tempête, le rétablissement de l'électricité reste une priorité. Plus de 2,6 millions d'habitants, principalement de personnes âgées, étaient encore privés d'eau courante. 8 pensionnaires âgés de 70 à 99 ans d'une maison de retraite ont trouvé la mort à cause d'une panne d'électricité. 115 autres pensionnaires ont été hospitalisés, certains souffrant de déshydratation ou de détresse respiratoire. Comme le malheur ne vient jamais seul, la Floride est accablée par une touffeur humide de plus de 30 degrés qui devrait encore durer plusieurs jours. Et la saison des tempêtes n'est pas finie. L'ouragan Max s'approchait hier de la côte pacifique du Mexique avec des vents de 120 km à l'heure, selon le Centre américain des ouragans.
D'autre part, l'administration Trump a décidé de prolonger temporairement la suspension des sanctions économiques liées à l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Précision de John Lyndon.
C'est un haut responsable américain qui l'a indiqué hier. Il s'agit d'une décision temporaire en attendant que le président Donald Trump prenne une décision finale sur la politique que suivront les États-Unis quant à l'accord de non-prolifération signé en 2015 à Vienne par l'Iran et les grandes puissances, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La prolongation de la suspension des sanctions qui vont de pair avec l'accord de non-prolifération ne préjuge en rien des décisions futures, a insisté ce haut responsable. Cette suspension ne va pas nous empêcher d'avancer les intérêts nationaux américains en s'opposant aux agressions de l'Iran et ne préjuge pas de la décision ultime que le président prendra sur l'accord de non-prolifération, a-t-il ajouté, sans indiquer à quelle date le président Trump prendra cette décision. En revanche, le Trésor américain a pris hier de nouvelles sanctions financières contre près d'une douzaine d'individus et d'entités qui soutiennent les gardiens de la révolution en Iran ou qui ont mené des cyberattaques contre le système financier américain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho.
La Côte d'Ivoire interdit l'importation du tilapia sur son territoire. Il s'agit du troisième pays, après la RDC et le Bénin, à bannir ce poisson provenant de cinq pays où sévit le virus de l'ac du tilapia. Jeune Afrique indique que la Colombie, l'Équateur, l'Égypte, la Thaïlande et Israël sont visés par la décision de Yamoussoukro, qui a pour objectif de protéger les tilapias sauvages et les tilapias d'élevage présents dans les eaux ivoiriennes. La FAO précise que le risque ne pèse pas sur la santé publique, mais plutôt sur les répercussions économiques, car ce virus pourrait décimer les populations de tilapia. Au Cameroun, la douane révèle l'existence de 6000 importateurs inconnus des services d'impôts. Il s'agit d'importateurs qui dédouanent régulièrement leurs marchandises et ne payent pas d'impôts. Selon Ecofin, la douane camerounaise a dressé une liste qui lui a permis de sommer ses opérateurs de se mettre rapidement en règle auprès de l'administration fiscale. Au Ghana, le gouvernement va investir 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années pour former les jeunes à l'entrepreneuriat. Selon l'agence Ecofin, le ministre du Développement des Entreprises a indiqué que l'exécutif s'active à orienter l'investissement public vers le secteur privé afin de le développer et créer des opportunités pour la jeunesse.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les quarts de finale de l'Afrobasket masculin 2017, ce jeudi à Tunis.
Et oui, le choc maghrébin entre le Maroc et l'Égypte a tourné à l'avantage des Marocains, 66 à 62. Une qualification dans le dernier carré de la compétition, c'est une première pour le Maroc depuis 1980. La Tunisie qui domine 80 à 60, les Léopards de la République démocratique du Congo. La première demi-finale opposera donc ce vendredi Marocains et Tunisiens. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal fera face au Nigeria, le tenant du titre nigérian qui a battu le Cameroun 106 à 91, sans surprise. Puis le Sénégal a réussi à se débarrasser de l'Angola 66-57. On retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique en Tunisie, Andinsi.
Un match explosif entre Sénégalais et Angolais. En effet, ce choc a tenu ses promesses. Le Sénégal a pourtant mieux négocié le premier quart-temps en s'imposant par 19 à 16. Mais les Angolais vont revenir en force dans cette rencontre en virant à tête à la pause grâce à un tir primé de Jean-Jacques Conceição, 37 à 34, alors que les équipes étaient à égalité, 34 partout. À la reprise, les équipes vont se tenir de très près, mais le Sénégal va mieux négocier ce troisième acte en virant en tête 51 à 45. Les Lions du Sénégal, galvanisés par cette réussite, vont maintenir la cadence pour s'imposer à la fin sur le score de 66 à 57. Une qualification bien méritée par les Lions du Sénégal qui ont souffert. Tunis, Amédine-Sy, VOA Afrique.
En football, Ligue Europa ce jeudi.
Et oui, un but pour le Congolais Cédric Bakambu avec son club de Villarreal, vainqueur 3-1 face à Astana. Autre Congolais buteur, Djemer Simbokani, 3-1 avec le Dynamo de Kiev contre les Croates de Corse. Le Milan AC en démonstration, 5-1 chez l'Austria de Vienne avec un triplé de Da Silva. Arsenal domine Cologne, 3-1. Et puis la Real Sociedad qui bat Rosenborg, 4-0. Le Zénith Saint-Pétersbourg en balade, 5-0 à Skopje. Et puis le Başak Şehir, le club d'Emmanuel Adebayor n'a pu faire que match nul 0-0 contre le Ludogorets. Et puis ça ne s'arrange pas pour Wayne Rooney et Everton, l'attaquant anglais récemment mis en examen pour conduite en état d'ivresse. Et son équipe ont été balayés en Italie par l'Atalanta Bergame 3-0.
Isco prolonge avec le Real.
Et oui, le meneur de jeu espagnol du Real Madrid, Francisco Alarco, dit Isco, a signé pour 4 nouvelles saisons avec le club madrilène. Tenez-vous bien, Idrissa, en 4 saisons effectuées avec les Merengues, Isco a remporté 3 Ligues des Champions, 2 Championnats du Monde des Clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Championnat d'Espagne, 1 Coupe du Roi et 1 Super Coupe d'Espagne. Ouf, ça fait beaucoup.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le front anti-CFA poursuit sa bataille pour que ces pays se retirent de la zone franc et lancent leur propre monnaie. Le point à Dakar avec Idriss Fall.
Le franc CFA est au cœur d'un débat passionné, voire incendiaire, pour faire allusion au panafricaniste Kémi Séba, expulsé du Sénégal au début du mois pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA. Ses partisans sont encore plus enflammés. Ndeye Nogaye Babel Sow, coordinatrice du front anti-CFA au Sénégal.
Le franc CFA est une monnaie coloniale née après la Seconde Guerre mondiale. La France avait besoin de se reconstruire et pour ça il fallait que les colonies françaises d'Afrique paient un impôt colonial, d'où le nom de franc des colonies françaises d'Afrique. 100% de nos réserves allaient directement au trésor public français et actuellement 50% de nos réserves vont toujours au trésor public français. La France détient un droit de veto dans nos banques centrales. Le franc CFA se fait à Chamalé. En France, à tout moment, une dévaluation peut survenir, comme c'était le cas en 1994. Vu qu'on donne 50% de nos réserves, 50% de ce qu'on a chaque année au trésor public français, il faudra contracter des dettes pour les payer, tout un problème.
Sortir de la zone franc, mais remplacer cette monnaie par quoi alors?
Ce qu'on dit, nous, c'est pas réellement sortir de la zone franc, parce que la France ne fait même pas partie de la zone franc. Autrement dit, la zone franc, c'était les 14 pays africains de l'UEMOA et de la CEMAC et les Comores. Ce qu'on demande, c'est de remplacer le franc CFA par une monnaie identitaire qui nous profite à nous, nous, l'Afrique.
Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Touba Touré, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est que des polémiques, quoi. Les gens, ils parlent comme ça, mais ils savent même pas ce qui se passe. Donc, on peut pas avoir une monnaie pendant 60 ans et se lever un beau jour et dire qu'on, je sais pas, on va créer une monnaie. C'est pas possible.
Pourquoi? Vous avez des exemples de pays où ça n'a pas marché?
La Guinée, Gambie, Zaïre, beaucoup de pays qui sont pas dans le franc, ils sont dans la mer. Leur devise, c'est quoi? C'est le dollar ou le franc ou l'euro. Par exemple, l'euro, ça a pris 10 ans. Donc voilà, donc une monnaie, ça ne se crée pas comme ça.
Pour tempérer les ardeurs, Ibou Diallo, professeur d'histoire à la retraite.
La monnaie, c'est une chose extrêmement complexe, extrêmement importante, qui affecte de manière extrêmement profonde les situations des populations. On a vu la dévaluation de 94 qui a consisté à réduire de 50% le franc CFA qui est toujours là. Ça a été pratiquement catastrophique. Donc, il faudrait que les pays africains, s'ils veulent avoir une autonomie monétaire, qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent sur qu'est-ce qu'ils peuvent apporter les uns aux autres. Comment on peut mettre en place une économie solide, performante. En ce moment-là, on peut envisager, quand on engage les gens à vivre une aventure économique, une aventure politique aussi grave, il faudrait que les conditions soient réunies.
Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Tchad, dans le collimateur d'Amnesty International, qui dénonce une augmentation, et je cite, de la répression envers les acteurs de la société civile au cours des dernières années. Selon l'ONG, les défenseurs des droits humains, les membres de mouvements citoyens, les syndicalistes et les journalistes qui critiquent le régime sont de plus en plus menacés. Amnesty International appelle donc les autorités tchadiennes à des changements en modifiant notamment les lois restrictives et en libérant les prisonniers d'opinion. Solange Niamoulissa a joint à N'Djamena Balkissa Idé Sido, chercheur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale.
Ce rapport analyse, documente des cas de violation des droits des défenseurs des droits humains, des activistes, mais aussi des journalistes. Donc nous avons dans ce document exposé les différents types de violations dont ils sont victimes, mais aussi les tactiques qui sont utilisées pour réprimer leurs droits. Nous avons eu à documenter essentiellement des violations qui portent sur les droits à la liberté de manifester pacifiquement, les droits à la liberté d'association, les droits de grève et la liberté d'expression, mais également notamment les actes d'intimidation, de surveillance qu'en font victimes ces défenseurs, activistes des droits humains et journalistes.
On sait très bien que le Tchad est un partenaire militaire stratégique dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Comment les pays occidentaux qui soutiennent cette lutte vont-ils faire pression pour que le Tchad mette fin à ces violations des droits humains?
Le Tchad est un pays qui aujourd'hui est une position stratégique tant dans la région Afrique centrale que sur le continent africain et même sur la scène internationale. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Tchad ne peut pas aujourd'hui se permettre de commettre des violations de cette ampleur-là des droits humains. Le Tchad est dépositaire de la charte africaine. En étant à la tête de la Commission africaine, ils sont tenus de respecter leurs engagements. Ils sont tenus de donner l'exemple aux autres pays africains. Et nous encourageons la communauté internationale à mettre le Tchad devant ses engagements. Les pays de l'Union européenne, par exemple, ils peuvent, dans le cadre de l'accord de Cotonou, l'article 8 notamment, dans le cadre de leur dialogue politique, parler de cela avec le Tchad, essayer de voir quelles sont les raisons pour lesquelles ces violations continuent et essayer de trouver des solutions avec le Tchad pour faire évoluer la situation ici au Tchad. Parce qu'actuellement, les défenseurs, les journalistes évoluent dans un environnement de peur.
Quelle est votre démarche auprès du gouvernement tchadien?
Nous avons décidé de nous engager dans une collaboration transparente avec les autorités en dialoguant avec eux. En juillet, nous leur avons envoyé un droit de réponse qui résume l'accord et qui pose des questions pour avoir eu leur point de vue afin de les intégrer dans notre rapport. Nous n'avons pas reçu de réponse. Et donc, ce que nous avons fait, en venant ici, nous sommes venus quelques jours avant le lancement, histoire de les rencontrer et au moins d'avoir leur réponse à l'oral pour l'intégrer dans notre conférence de presse ou dans nos interviews avec les médias. Malheureusement, étant donné leur emploi du temps chargé, nous n'avons pas pu les rencontrer. Nous n'en avons pu rencontrer que le ministre de la Justice, qui d'ailleurs, notre réunion a été fructueuse, hein, parce que il a reconnu effectivement que les textes des lois posent problème, parce que ce sont des textes des lois datés des années 60, et pendant les années 60, c'était un parti unique. Et là, la situation a évolué. Donc, ces textes-là doivent être amendés, doivent être revus, mis en ligne avec les standards régionaux et internationaux en termes de droits humains. Donc, cela, il a reconnu et il nous a rassuré qu'ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer à l'amélioration de la situation des défenseurs des droits humains ici au Tchad.
C'était Balkissa Idé Sido, chercheuse d'Amnesty International pour l'Afrique centrale, et elle nous parlait de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, l'association de défense des droits de l'homme SOS-IJM plaide pour l'amélioration des conditions carcérales en RDC et au Sud Kivu en particulier. Son coordonnateur, Maître Justin Bahiroué, a dénoncé le cas de 28 prisonniers malades et affamés qui sont évanouis dans la rue en début de semaine en territoire de Kabaré au Sud Kivu. Monsieur Bahiroué a déploré que l'on ait exposé ces prisonniers dans la rue et sollicité la pitié et la charité des passants. La scène s'est passée devant l'entrée de la prison de Kabaré à 16 km au nord de la ville de Bukavu. Les détails avec notre correspondant Ernest Muhero.
C'est avec désolation que les passants qui ont emprunté les tronçons devant cette prison ont assisté au mouvement des déplacements des corps des détenus évanouis et amaigris, portés au sol par leurs co-détenus. Selon Pascal Katagondoa, conseiller en charge des questions pénitentiaires au ministère provincial de la justice au Sud Kivu, 28 détenus sur les 210 hébergés en ce moment dans cette prison ont connu des crises d'hypoglycémie sévère après une rupture de stock alimentaire de 2 semaines.
Le médecin a estimé que l'on puisse les sortir, le temps qu'ils puissent prendre un peu de l'air et voir dans quelle mesure on pourrait arriver, n'est-ce pas, à remonter leur glycémie. Les autorités provinciales ont saisi directement Kinshasa, le ministère national, pour pouvoir très rapidement subvenir à ses besoins.
Pour Maître Justin Bahiroué, coordonnateur de l'ONG locale SOS-IJM, qui fait entre autres le monitoring des conditions carcérales au Sud Kivu, c'est depuis plus de 3 mois que la ration alimentaire ordinaire n'est pas régulière dans les prisons du Sud Kivu.
Le fait qu'on est exposé à des prisons sur la rue et solliciter la pitié et la charité des passants, ça dépasse l'entendement humain. C'est ce qui nous a choqués. Même s'ils sont prisonniers, ils ont des droits. Et en aucun cas, peu importe les circonstances, on ne peut accepter qu'une personne soit privée de l'alimentation, des soins médicaux ou de l'accès à l'eau.
Maître Bahiroué estime que ce qui vient de se passer à Kabaré met au grand jour une réalité voilée des milliers pénitentiaires congolais.
C'est juste une étincelle, un élément qui montre la température de la situation carcérale dans toute la province. Ça fait plusieurs mois depuis qu'on est en train de crier des morts dans des prisons. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a suivi qu'il y a eu des morts à Uvira. Ça fait plus de 3 mois que les prisons n'ont pas bénéficié de leur ration ordinaire. Et donc, les prisonniers sont abandonnés pour compte. Ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas les autorités qui ont dans les attributions la question pénitentiaire.
Le conseiller en charge des questions pénitentiaires, Pascal Katagondoa, précise que la compétence liée à la prise en charge des détenus dans ces milieux carcérales revient au gouvernement central et qu'en attendant, le gouvernement provincial du Sud Kivu a apporté son soutien de 200 kg de haricots et la même quantité de farine de maïs.
Les dispositions nécessaires ont été prises pour pouvoir y apporter des vivres, mais aussi des aliments nutritifs.
Cet appui du gouvernement provincial va permettre aux détenus de tenir pendant combien de temps?
Ce qu'on a intervenu, ça pourrait prendre 2 semaines. Je vous dis que tous les détenus que vous avez vus étaient là-bas, ils se sont recouvrés les états de santé.
Selon des sources pénitentiaires, sur les 210 détenus de la prison des Kabaré, il y a 9 femmes, seulement 45 prisonniers ont été condamnés et donc 165 sont en détention préventive. Le conseiller Katagondoa interpelle.
Nous pensons que les juridictions doivent nous aider aussi, tant au niveau pénitentiaire qu'au niveau judiciaire, n'est-ce pas, accélérer les dossiers des détenus afin qu'on puisse venir voir au cas par cas comment relaxer ne fût-ce que pour les cas bénins.
Signalons que parmi les 28 détenus évanouis ce lundi à Kabaré, seulement 5 prisonniers étaient déjà condamnés selon Pascal Katagondoa. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Visite hier du président Donald Trump en Floride pour constater les dégâts causés par l'ouragan Irma. Selon les autorités locales, plus de 2,6 millions d'habitants étaient encore privés de courant 4 jours après le passage de la tempête. Dans la ville de Miami, les habitants ont commencé à mesurer l'ampleur des dégâts. Timothée Donangmai a joint Marc Elias, un instructeur de police de la ville. Il commence par la solidarité entre habitants qui ne se connaissaient pas forcément avant la tempête.
On met main dans la main dans les différents quartiers. On voit les gens que d'habitude, lorsqu'on sort du travail, c'est possible que même la maison qui est à côté de toi, on ne connaît pas qui vit là. Mais on a le temps de parler avec l'un et l'autre et d'aider avec l'un et l'autre. Et c'est bien dommage, ce sont dans des événements comme ça qu'on voit l'humanité et l'amour de l'être humain, l'amour que Dieu nous a créé à l'intérieur de l'un et l'autre. Ce n'est pas une question de noir, blanc ou espagnol. Tous ont vécu quelque chose de catastrophique, donc on se met ensemble juste pour en recommencer notre vie.
Quelle est l'ampleur des dégâts à Miami?
Il y en a beaucoup, surtout avec les arbres, il y a les routes, il y a les maisons, ensuite à Key West, Key Largo. À Miami, pas aussi fort qu'à Key West, mais on a des dégâts. Par exemple, pour moi, je dois mettre une nouvelle toiture. Par exemple, c'est les zones qui sont près de l'océan, ils font face à l'inondation. Moi, non, parce que je n'habite pas trop près de l'océan, mais quand même, toiture de la maison, parce que même avec un arbre qui tombe sur la toiture, donc là, on doit faire le nettoyage et trouver une compagnie. Mais je dis prudence à des gens, parce qu'il y a des compagnies, et j'ai vécu ça comme chef de la police, c'est vraiment terrible. On doit vraiment, vraiment faire attention.
Quels sont les autres problèmes auxquels sont confrontés les habitants de la région?
Actuellement, on avait commencé dès lundi à peut-être 1 million de gens sans électricité. Maintenant, on est à moitié. Donc, c'est toujours là, l'électricité, de l'eau. Il y a les marchés qui sont ouverts maintenant. Donc, ça nous aide un peu. Comme je dis que peu à peu, on fait le pas ensemble.
Que disent les compagnies d'assurance?
Ouh là là, ça c'est vraiment une blague. Parce que je me suis resté hier jusqu'à 2h30 de temps et finalement, lorsque le type est venu au téléphone, il m'a demandé pour les documents. Je lui ai dit, mais écoute, je vous ai donné mon nom social, tout ce que vous voulez. Ça devait être dans l'ordinateur. Donc, ça m'a pris une autre, quoi, 2 heures de temps encore. Même avec ça, il me dit que ça va prendre 3 semaines avant que quelqu'un arrive là pour me dire, bon, voici combien qu'ils vont me donner. C'est chaque mois, on paie l'assurance, mais lorsque c'est à eux maintenant pour nous aider, c'est vraiment, enfin, c'est la vie.
C'était Marc Elias, instructeur de police de la ville de Miami. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abderrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.